Bonjour à tous, je suis Fatine, architecte et podcasteuse, et je vous souhaite la bienvenue sur Pep Talk with Fatine, le premier podcast morocco-belge qui vous parle de motivation, de productivité, de gestion du stress, de la culture du bonheur, des relations de couple et même récemment de maternité. Une bonne panoplie de sujets liés au développement personnel et à la vie. Bref, un podcast qui vous tire vers de plus belles hauteurs. Sur Pep Talk with Fatine, je traite de sujets qui vous intéressent et j'invite des personnes de diverses spécialités à vous faire profiter de leurs expériences, de leur vécu et de vous exposer un condensé de leurs propres méthodes sans filtre et sans tabou. Merci à tous les auditeurs venus ici et d'ailleurs d'être à l'écoute. Je suis maintenant de retour et ça fait un bail que je n'ai pas posé d'épisode et je suis très très heureuse d'être de retour en force parce que maintenant je vais vous parler d'un sujet qui revient souvent et qu'on me réclame souvent, c'est le postpartum. Et j'intitule donc cet épisode « Un postpartum presque parfait ». Alors vraiment, préparez-vous et sortez votre carnet de notes, stylo et préparez-vous à noter parce que ça va être un condensé d'informations. C'est vraiment le cumul de plusieurs lectures, de mon expérience de postpartum, tout ça condensé en un maximum de choses que j'avais notées au préalable et que j'avais mis en place pendant mon postpartum, que j'avais fait, et des choses que je n'ai pas faites. On va donc y revenir et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a été vraiment efficace ou non. Donc préparez-vous et c'est parti. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est que quand on entre en phase de postpartum, on a accouché, on est KO, on a un bébé dans les bras, on se reçoit cette claque de bah, la vie va maintenant changer, t'as une responsabilité, t'as un bébé dans les bras, t'as une explosion d'amour qui survient, t'as les hormones, t'as le mari qui est avec toi, qui te soutient, et avec patati patata. Donc il y a beaucoup de choses d'un coup. Et la notion de cocooning ici est hyper importante. Parce que pendant le postpartum, la première chose qu'on veut, c'est avoir un espace, un havre de paix à la maison. Donc, avant d'aller à la clinique, avant l'accouchement, s'assurer au préalable de préparer petit à petit son chez-soi et avoir un endroit où, quand on revient de la clinique et qu'on rentre à la maison, on se sent vraiment dans une bulle, dans une sorte de cocooning, en famille, où on se sent bien. Donc, acheter de nouveaux draps, mettre des senteurs à la maison, préparer la chambre qui va, notre chambre du coup qui va accueillir bébé, et mettre à disposition sur la table de nuit, dans les placards, dans la cuisine, dans la salle de bain, tout ce dont vous aurez besoin et qui soit très accessible pour ne pas avoir à fournir le moindre effort une fois qu'on arrive complètement crevé avec bébé, sachant que les journées vont être longues, difficiles, et les nuits, bien sûr, on n'en parle même pas. Donc, faire en sorte de créer ce cocon avant d'aller à la clinique. Donc, préparer ça dans les semaines précédentes, comme ça, dès qu'on va à la clinique, on revient, boum, on est déjà bien, la chambre est prête, c'est de nouveaux draps, on se sent bien, on a de nouvelles senteurs à la maison, donc on a des diffuseurs, par exemple, donc c'est ça. Et puis, on a tout ce qu'il faut à disposition, c'est très, 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 très important. Donc, c'est clair que revenir avec un bébé, c'est déjà un chamboulement en soi. Et le but, c'est de le vivre pleinement, joyeusement et en limitant toute difficulté. Donc, par exemple, pour tout ce qui est baby care, il ne faut pas oublier que, par exemple, le bébé s'habitue encore à être en dehors du ventre. Donc, il a besoin encore d'un maximum de peau à peau, au moins les 3 premiers mois, maximum de peau à peau, à donner sans modération. Donc son premier cocooning à lui, c'est vous déjà, donc ça c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Pour ce qui est de l'organisation de la chambre, pour que le postpartum soit vraiment du mieux fait et organisé, vous pouvez laisser par exemple sur votre table de nuit, et ça m'a beaucoup aidé d'avoir ça à proximité dans mon lit sans avoir à dire est-ce que tu peux me ramener ceci cela, ou avoir à me lever et souffrir le martyr, c'est d'avoir sur ma table de nuit la crème Lancino pour les mamelons, pour les personnes qui l'ont allaité. De l'huile hydratante pour toujours s'hydrater le ventre, parce que et les cuisses et les fesses et les seins, parce que ça va continuer à. Les seins peut-être gonflent encore plus avec la montée de lait. Le ventre encore est en train de changer de forme, et donc il faut l'hydrater. On veut encore limiter le maximum de vergitures. Voilà, donc avoir de l'huile hydratante à proximité. Moi, j'utilise beaucoup l'huile d'argan à 100%. Donc, à faire. Avoir un thermos et des tisanes à côté. Préparer des coupelles de fruits. Dans ce cas-là, on les ramènera le jour même ou alors juste avant de sortir à la clinique, poser les fruits sur la table de nuit dans un grand bol ou quelque chose comme ça. Et puis préparer une petite boîte avec des fruits secs, oléagineux, une bouteille d'eau, et puis pourquoi pas du bon chocolat pour se faire du bien. Donc ça, sur la table de nuit, c'est parfait. Prenez note, feuille, stylo, reviens à ce que j'ai dit au début pour ce qui est de la table de nuit, tout ce qu'il faut préparer. Et franchement, ça va vous soulager, mais c'est génial. Moi, je vous conseille de faire ça. Et ça, c'est sur la table de nuit et dans la chambre. Ce que je conseille, c'est de prévoir un marche-pied. J'avais prévu de faire ça et je ne sais pas pourquoi j'ai une fois dedans, j'ai complètement zappé. Surtout que j'allaitais surtout sur le lit ou sur la chaise d'allaitement et j'ai par la force des choses oublié de l'utiliser. Mais je pense que c'est primordial, c'est le marche-pied. Et ça aide beaucoup au lieu d'avoir à croiser les jambes pour attraper bébé et ce genre de choses, d'avoir son coussin d'allaitement pour soutenir le dos et le bras, mais aussi d'avoir un marche-pied pour soulever les jambes. Ça aide beaucoup aussi pour avoir une position confortable pendant l'allaitement. D'autant plus que ça dure quand même pas mal de temps et plusieurs fois par jour. Donc il faut bien prendre soin de sa posture et son corps et son dos, parce que sinon, si on a en plus de ça des douleurs qui se rajoutent, c'est pas cool. C'est bien aussi d'avoir dans la chambre une bouillotte électrique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après l'accouchement, notre corps de femme a besoin de chaleur pour retrouver son état normal. Les organes sont en train de se remettre en place, ce genre de choses. Et notre corps a besoin de chaleur. Le froid, ça va un peu à l'encontre de tout ça. Et donc, il faut chauffer un peu son corps un maximum. Même si vous accouchez l'été, n'hésitez pas à prévoir dans votre chambre une bouillotte électrique ou pas. Et l'enrouler autour d'une serviette si c'est trop chaud, parce que vous ne voulez pas quand même que brûler votre peau. Mais avoir une bouillotte à proximité et l'utiliser, la poser sur le ventre, le dos, les épaules, les jambes. Voilà quoi. Donc, réchauffez votre corps. Le coussin d'allaitement, évidemment, qui est peut-être le coussin que vous avez utilisé pendant votre grossesse, mais si on peut l'utiliser aussi pour l'allaitement. Donc, vous ne vous amusez pas forcément à en acheter un autre. Si vous en avez déjà un, c'est bon. Il y a ça. Et dans la chambre aussi, une lumière douce, tamisée, pour éviter de réveiller bébé, parce qu'en pleine nuit, parfois, on a besoin de. On se réveille, on ne veut pas allumer la lumière. Ou alors, quand bébé dort et que vous voulez rentrer dans la chambre, sans avoir allumé, d'avoir une lumière tamisée dans la chambre. Donc c'est réconfortant aussi. Et puis, évidemment, une table allongée. Très pratique d'avoir ça aussi pendant la nuit, au cas où il faut changer la couche, sans avoir à sortir de la chambre. On est déjà épuisé. Donc la table allongée à proximité. Et enfin, ce que je gardais aussi dans la chambre, c'est des compresses froides. Sur le périnée. C'est le seul endroit qui a besoin de froid, c'est le périnée qui est complètement déglingué après l'accouchement, surtout si vous avez subi un accouchement voix basse. Donc des compresses froides sur le périnée, ça va lui permettre de. C'est un endroit qui a besoin de froid pour se rétablir, donc c'est un anti-inflammatoire, le froid. Donc n'hésitez pas à avoir des compresses froides à proximité, que ce soit dans la chambre ou même dans la salle de bain. Voilà. Alors, ce que je gardais aux toilettes, c'est évidemment les serviettes hygiéniques de maternité. On sait qu'on, enfin voilà, après l'accouchement, on saigne beaucoup, on saigne pendant peut-être même un bon mois. Donc, ne pas hésiter à avoir nos serviettes hygiéniques à proximité, qu'on va changer souvent. Si vous avez subi en plus une épisiotomie, on n'a pas envie de que. C'est une zone qui ne doit pas rester humide, sinon la cicatrisation se fait beaucoup plus lente. Et même si vous n'avez pas subi d'épisiotomie, si vous avez une déchirure, pareil. Donc on ne veut pas que laisser cette zone humide trop longtemps. Et donc ne pas hésiter à changer sa serviette hygiénique souvent. Il y a ça. Et au WC, on garde aussi du papier toilette doux. Vous allez remarquer que même vous allez même être sensible à la rugosité du papier toilette. Si c'est doux, c'est mieux et c'est plus sympa pour vous. Et puis évidemment, le fameux bidet portable pour se laver à l'eau tiède ou froide. après chaque fois, chaque fois que vous urinez, de se rincer à l'eau avec ce bidet portable. Ça se vend sur Amazon, vous pouvez le trouver aussi dans les magasins au Maroc ou en ligne. Ça s'appelle bidet portable, un petit récipient, vous remplissez d'eau et ça vous permet de vous asperger d'eau. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ça. Voilà, donc j'ai fait le topo de tout ce qu'il faut avoir sur votre table de nuit, dans la chambre et aux toilettes. Et ça, c'est vraiment des éléments qui vont vous aider au quotidien. Et c'est pratique de les avoir à proximité, de ne pas avoir à réfléchir et de rentrer à la maison. Et c'est déjà fait, tout est déjà en place. J'ai pas besoin d'organiser ça. Après, au fur et à mesure, ou avoir à demander quelque chose à quelqu'un, tout est déjà posé. En parlant de cocooning, quand on prépare chez soi pour que ce soit nickel au moment où on rentre de la maternité, c'est facile que notre cocon, que notre maison soit prête à nous recevoir parce qu'on l'a préparé au préalable, mais il faut aussi que les personnes qui viennent nous rendre visite ne soient pas envahissantes. Et ça, c'est un gros problème au Maroc, surtout. Parce que moi, bon, j'ai pas vécu ça avec Maya parce que j'avais accouché à l'étranger, c'était en plein Covid, donc on n'avait pas de visite et donc la famille n'est pas venue nous voir ni rien. Donc on était vraiment à trois, cocon à la maison, postpartum à fond, pas de visite ni rien. Donc on n'a pas eu à faire face à ça, mais on a vécu ça à plus petite échelle quand on est rentré définitivement au Maroc, un mois plus tard, un mois et demi plus tard. Voilà, mais pour les personnes qui sont au Maroc, et ça c'est quelque chose que j'aimerais installer si jamais j'accouche ici une autre fois au Maroc, c'est qu'il faut s'attendre à un envahissement de la famille au sein de la vôtre dès la clinique. Vous savez tous qu'au moment où on accouche, dès le lendemain ou voire le jour même, les gens. La famille envahit la chambre de maternité, voilà, donc tout le monde vient visiter, tout le monde vient vous dire félicitations, bah, comme ça, oh, génial, super. Donc ça fait plaisir, ils sont là pour fêter cet heureux événement. Mais évidemment, moi personnellement, je trouve que c'est pas l'idéal parce que vous êtes complètement fatigué, vous avez besoin de repos, vous avez envie d'allaiter en paix. Non pas que ce soit tabou et allaiter c'est normal et on a envie de montrer ses seins et allaiter, mais des fois on n'a juste pas envie, on a envie de faire ça quand même dans son intimité parce que c'est nouveau pour nous et que c'est une découverte, surtout pour une première grossesse, c'est une découverte nouvelle qu'on a envie de vivre et de faire bien comme on veut nous, pas aux yeux de tout le monde. Voilà, la famille est envahie un peu la chambre, donc. Soit vous pensez à comment vous voulez gérer les visites de la famille dès le début, de la famille et des amis, pour que ça n'entrave pas à votre bien-être. Donc vous dites à vos parents, par exemple, voilà, vous venez me rendre visite, et évidemment la famille, je préfère qu'ils attendent le deuxième ou troisième jour, que je me sente un peu mieux, que j'ai récupéré, et que voilà. Ou alors réguler les visites pour qu'il n'y ait pas trop de monde, et que vous n'ayez pas de répit toute la journée, c'est difficile. Donc n'hésitez pas à en parler et de gérer vos visites comme vous l'entendez pour ne pas avoir à subir un rythme qui est trop difficile pour vous. De un. De deux, qu'on le veuille ou non, on va s'attendre à un envahissement positif ou négatif de la famille au sein de la vôtre. Donc il faut s'y préparer quand même mentalement, se souvenir que ça vient tout d'une bonne intention. Là, tout le monde vient vous rendre visite parce qu'ils sont contents pour vous. Mais il faut s'y préparer, se préparer aux remarques de certaines personnes qui peut-être font des remarques un peu déplacées, vous diront il faut faire les choses de telle manière, pas de telle manière. Moi, avec mes enfants, je faisais comme si, moi, avec mes enfants, je faisais comme ça. Bon, il faut s'y préparer mentalement et se souvenir que ça rentrera d'une oreille, sortira de l'autre, qu'on prendra le bon, qu'on jettera le mauvais et qu'au final, on fera les choses comme nous, on veut, à notre manière. Donc, plus on s'y prépare à l'avance et moins ce sera impactant sur votre morale. Donc, ça vous aidera à relativiser et donc n'hésitez pas à par la suite, au final, d'imposer votre manière de faire si quelqu'un est trop imposant et veut trop faire les choses comme lui ou elle a fait à un moment donné et de dire écoutez, écoute, merci pour ton conseil, je sais que ça vient d'une bonne intention, mais c'est mon bébé, c'est ma vie et j'ai envie de faire ça comme ça. Et peut-être que si un jour ça me convient plus, ben, je ferai peut-être ta méthode ou celle d'un autre, mais pour l'instant, je veux faire les choses comme ça parce que c'est comme ça que j'ai envie de les faire. C'est tout. Voilà, donc préparez-vous mentalement à accueillir ce genre de choses pour que le jour J, vous ne vous trouviez pas des nues, vous ne soyez pas un peu choqués par, par cet envahissement de commentaires, d'avis que tout le monde a envie de donner. Et voilà, donc ça c'est un petit point un peu lié au cocooning. Ça vous permettra de vraiment avoir votre cocon à vous et de vous protéger de toute remarque ou commentaire inutile. Ensuite, il y a la question du self-care qui est très importante pendant le postpartum parce qu'on a envie de prendre soin de soi. Et avec tout le temps que prend un bébé et toute la fatigue accumulée, on s'oublie. Alors, il y a des choses dans ce que je vais vous dire que j'ai fait et qui m'ont soulagé, aidé. Et il y a des choses que je n'ai malheureusement pas fait et je n'hésiterai pas à me foutre un coup de pied dans le cul pour les faire la prochaine fois. Alors, il y a le fait de devoir rester allongé le plus possible pour faciliter la récupération du périnée, surtout les 21 premiers jours. Donc, éviter de trop se lever, il faut s'allonger un maximum, voilà, pour que le périnée se rétablisse, pour que sa musculature reprenne un peu des couleurs, si on veut, il faut rester allongé un maximum, voilà, surtout les 21 premiers jours, il y a ça. C'est vraiment s'imaginer comme si on n'a plus de jambes, plus de dos, et on s'allonge, on récupère, d'autant plus que les organes aussi se remettent en place. Et si on demande trop d'efforts à notre corps, c'est quelque chose qui peut être un peu plus embêtant à se remettre en place correctement. Il y avait une règle aussi qui était très importante, c'était de prendre 30 minutes pour soi chaque jour, pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Parce que si vous voulez prendre un bain, si vous voulez sortir faire une petite marche, si vous voulez au contraire juste faire une sieste, si vous voulez, je sais pas moi, faire un skin routine, peu importe, mais prendre 30 minutes pour soi, loin de bébé, loin de tout, juste pour se retrouver et se déconnecter un petit peu de cette routine bébé qui va être un peu trop envahissante au début. Donc 30 minutes, c'est rien du tout. Donc n'hésitez pas à planifier ça dès que possible, chaque fois dans la journée. Continuer à s'hydrater, bien sûr, le corps avec de l'huile d'argan, par exemple. Grignoter des dattes, des fruits secs et surtout manger plein de choses chaudes, des soupes, des gratins, du thé, des plats chauds qui vont vous faire du bien. Et comme je vous ai dit, votre corps a besoin de chaleur pendant cette période. La chaleur et le repos, c'est vraiment primordial. Donc les soupes légumes, les soupes miso, mettre des chaussettes chaudes, de la bouillotte, voilà. Donc n'hésitez pas à fou. Et puis pour ceux qui ont subi une déchirure ou une épisiotomie, 3 semaines après l'accouchement, vous allez pouvoir commencer à masser les cicatrices. Donc 10 minutes par jour avec une crème cicatrisante par exemple, ça se vend à la pharmacie. Vous massez la cicatrice avec des cercles, puis vous la massez de haut en bas, puis vous la massez en faisant des twists, c'est-à-dire vous allez de droite à gauche le long de la cicatrice. Voilà, donc ça, c'est des choses qui vont permettre de refaire circuler le sang et que la cicatrisation se fasse de manière plus saine et plus rapide. Voilà, mais 3 semaines après l'accouchement, pas avant, c'est encore trop fragile plutôt. Évidemment, l'autre tips lié au self-care, c'est de dormir quand bébé dort. Je sais qu'on entend ça souvent et qu'une fois que bébé est là, on a tellement l'impression de ne plus avoir de vie quand bébé dort en journée, on a juste envie de faire des choses pour sentir qu'on profite de sa journée. Mais franchement, la nuit, on regrette tellement de ne pas avoir dormi pendant la journée, vous n'avez pas idée. Donc vraiment, conseil de maman qui est passée par là, dormez quand bébé dort, dormez peut-être pas toutes les siestes, d'accord, mais genre au moins une ou deux siestes, si vous arrivez à en avoir une, c'est top, faites-le, c'est hyper important. Et puis la douche, évidemment, quand bébé dort aussi, prenez votre douche. Ça devient, on se laisse tellement aller qu'on s'oublie, on peut passer la semaine sans se doucher tellement on est complètement out et crevé. Donc bébé dort, soit je dors aussi, soit je prends ma douche, soit c'est du me time. Donc composez ça un peu comme vous voulez pendant la journée. Alors, après 4 semaines après l'accouchement, vous allez pouvoir prendre des bains chauds. Généralement c'est après la dernière fuite de sang, vous pourrez prendre des bains chauds et dans ce cas là plongez-vous, détendez-vous avec une tisane chaude pendant le bain par exemple, utilisez des gros sels ou de l'huile de lavande mélangée à de l'huile de jojoba, vous mettez ça dans votre bain, pas dans la tisane, hein, dans votre bain, ou peut-être même de l'huile d'amande douce, et détendez-vous dans votre bain avec une bonne tisane, et c'est parti, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Il y a ça. Alors, il y a aussi des choses que vous pouvez faire à domicile ou chez un spécialiste. Il y a le massage ayurvédique que je n'ai pas fait, mais qui me tenterait beaucoup pour une prochaine fois et qui soulage et qui va vous faire beaucoup de bien. Il y a ça. Et il y a le rebozo que vous pouvez le faire chez le kiné. Voilà. Donc, c'est des pratiques, des massages, des choses qui vont vous détendre et remettre un petit peu votre corps dans une meilleure posture et une sensation de détente qui vous fera beaucoup de bien. Et puis si vous ne voulez pas faire ça ou si vous ne voulez pas engager des moyens pour faire ça, vous pouvez faire même de l'automassage ou demander à votre époux de vous masser la tête, la nuque, les pieds, les bras. Voilà, tout ce qui peut contribuer à vous faire sentir mieux. Et pour vous masser, il pourra donc utiliser de l'huile d'argan, de l'huile de jojoba, peut-être quelques 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de rose, de l'huile de coco. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez utiliser. Et donc, n'hésitez pas à conserver de ces huiles dans un flacon. Et je sais qu'on peut les mélanger. Donc, vous pouvez mettre dans un flacon, par exemple, une cuillère à soupe d'huile de coco, une cuillère à soupe d'huile de jojoba. Vous ajoutez les 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de rose et vous conservez ça dans un flacon. Et dès que vous voulez vous faire masser, vous donnez à votre partenaire et c'est parti. On se détend. Il y a ça. Le bain de pied. Ça, j'ai pas fait aussi, mais je me dis, mais pourquoi j'ai pas pensé à faire ça? C'est hyper simple. Tu remplis une bassine avec du gros sel. Tu sais, même quand on commande de chez Jumia, ils nous donnent les sachets de gros sel qu'on accumule chez soi ou qu'on va carrément jeter à la poubelle, mais on peut les utiliser pour prendre un bain. Ou dans ce cas-là, mettre dans une bassine d'eau du gros sel avec un peu d'huile de lavande, par exemple, ou de l'huile d'amande douce, et on met ses pieds dedans et on se détend et ça fait un bien fou. On est comme chez le coiffeur ou l'esthéticienne avant de faire une pédicure ou on pose vernis et on se détend. On peut même faire ça pendant qu'on allaite, quoi. Je sais pas pourquoi finalement j'ai pas fait ça, mais il faut se forcer, il faut pas hésiter à demander de l'aide et de dire, bon, aujourd'hui j'ai prévu de faire un bain de pied, please remplis-moi une bassine avec du gros sel et de l'huile d'amande, j'ai envie de me détendre. Voilà, ils vous diront pas non, ils ont pas intérêt. Voilà, donc il y a ça. Et enfin, pour finir, pour tout ce qui est self-care, quelques minutes par jour, peut-être, si vous arrivez une fois de temps en temps à faire des postures de yoga postnatal. Et vous pouvez trouver une tonne de vidéos sur YouTube de yoga postnatal qui est adaptée aux 6 premières semaines postpartum. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ça, combiner peut-être à de la méditation, c'est génial. Donc le self-care, très important. Je vous ai donné une liste de choses, une liste d'idées à faire. N'hésitez pas à prendre ce qui vous plaît et d'essayer de l'appliquer une fois que vous êtes en pleine période de postpartum. Voilà. Alors, on va
Alors,
passer au
amamélis,
chapitre
miel,
déchirure, épisiotomie,
et
tous les tips et astuces qui vont vous aider à surmonter tout ça. Numéro 1, il faut se laver quotidiennement avec délicatesse, avec des produits sans parfum. C'est hyper important, ça va juste vous faire plus mal et ça va juste vous démanger, ça va créer plus de rougeur, ça sert à rien. Même en temps normal, il faut pas les utiliser, des produits avec parfum, donc encore plus maintenant, des produits délicats et sans parfum. Il faut à chaque fois que c'est mouillé, après avoir uriné ou autre, bien sécher délicatement la plaie et changer régulièrement de protection. Voilà, ça c'est le béaba, il faut faire ça pour que ça cicatrise mieux et plus rapidement. Alors, il faut aussi éviter que la plaie reste en milieu humide, 24 heures sur 24. Vous allez beaucoup saigner, donc ça va forcément rester assez humide assez longtemps. Donc c'est pour ça qu'il faut changer de serviette très souvent et sécher. Donc n'hésitez pas aussi de temps en temps à aérer et laisser libre quelques minutes par jour en protégeant par exemple votre matelas d'une alaise ou d'une serviette et rester allongé voilà, à l'air libre pour que ça puisse sécher. Ça évite que ça reste humide trop longtemps. Alors ça c'est quelque chose par contre que je n'ai pas testé, mais je vous le dis quand même parce qu'apparemment ça marche bien. C'est se procurer du porphyral, c'est une algue rouge que vous pouvez appliquer localement et qui aide à la cicatrisation. Bon, je jette ça juste en plein milieu. Si quelqu'un peut s'en procurer, apparemment ça fonctionne très bien. Ou sinon, du miel non pasteurisé. Ça, c'est le plus commun, ce que les gens utilisent le plus. Du miel non pasteurisé que vous appliquez localement sur la plaie pour aider à la cicatrisation. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser des compresses à l'amamélis. H-A-M-A-M-E-L-I-S. Amamélis. Parce que ça favorise la bonne circulation du sang et ça limite les œdèmes en facilitant une bonne vascularisation et c'est favorable donc à la cicatrisation. Voilà. Donc si vous pouvez appliquer des fois une compresse à la mamélie, c'est sympa. Porphyral, je n'ai pas essayé. J'aurais dû essayer au moins une parce que j'ai ma douleur et j'ai eu une épisiotomie et la douleur que j'ai ressentie pendant 2 semaines, c'était horrible, impossible de m'asseoir, la douleur constante toute la journée, donc c'était horrible. Et peut-être que si j'avais utilisé un de ces produits, ça m'aurait aidé à soulager un petit peu et à cicatriser un peu plus rapidement. Voilà. Alors des astuces qui peuvent vous aider pendant cette période de rétablissement par rapport à la déchirure et épisiotomie, c'est si c'est douloureux quand vous urinez, de faire pipi sous la douche, par exemple, ou alors d'uriner et d'utiliser votre bidet portable et verser de l'eau pendant que vous urinez. Voilà, ça peut faire en sorte que ça soit moins douloureux, ça brûle moins. Évidemment, et ça c'est plus compliqué, c'est que si en plus de ça vous êtes constipé, ça fait atrocement mal parce que la déchirure est sollicitée, ça va vous tuer, quoi, c'est horrible. Donc limiter la constipation à fond, ça veut dire boire beaucoup beaucoup d'eau, 2 litres, 2,5 litres, allez-y à fond, buvez beaucoup d'eau, beaucoup de fibres, faites en sorte de ne pas être constipé, quoi. Comme ça vraiment ça va vous soulager de ouf. Donc voilà, ça c'est hyper important. Et évitez un maximum de ne pas pousser. Parce que sinon vous allez vous abîmer les abdos, le périnée, tout ce qui va avec, donc ça n'aidera pas non plus de pousser. Voilà. Et enfin, ce que vous pouvez faire 6 semaines après l'accouchement, c'est de commencer votre rééducation périnatale du périnée. La rééducation du périnée, les gars, ça m'a fait revivre. Et l'erreur que j'ai faite, c'est de l'avoir commencé 6 semaines après mon accouchement. J'ai attendu beaucoup trop tard. Ça s'est passé peut-être 5 mois ou quoi avant que je m'y mette. Même après m'être rétablie de ma cicatrisation, de mon épisiotomie, mon périnée est resté très fragile. C'était parfois un petit peu douloureux, même après cicatrisation. Je sentais que c'était pas ça, je sentais que ça allait pas, quoi. Donc il fallait régler ça. Et puis je me suis dit, bon, bah, t'as pas fait ta rééducation du périnée, ce serait bien de se lancer et de faire ça une fois pour toutes. J'ai fait ça chez une kiné que j'aime beaucoup et ça m'a énormément aidée. En quelques séances, je sentais déjà l'évolution et depuis, ça va beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et franchement, je referai ça avant accouchement, après accouchement, sans hésiter, next time, c'est sûr. Ça sauve de ouf. D'abord parce que ça va préparer le périnée à l'accouchement. Donc si vous pouvez le faire avant, c'est une bonne chose déjà, pour s'entraîner. C'est plein d'exercices, c'est hyper simple, c'est facile, ça fait pas mal, c'est rien du tout. C'est juste des exercices d'étirement du périnée que vous pouvez faire. Et la kiné vous montre comment au cours d'une séance. Et après, donc votre périnée sera préparé déjà, il sera bien musclé, bien ferme, et c'est parti. Donc au moment de l'accouchement, ça va être plus simple, il sera plus solide. Et faire ça 6 semaines après l'accouchement, ça va vous permettre de le retravailler pour qu'il puisse se rétablir, aller mieux, ne pas avoir de soucis par la suite, parce que franchement, ça devient presque invivable, c'est pas facile. Voilà, donc rééducation du périnée, les gars, ça, allez-y, n'attendez pas, c'est hyper important. Sujet suivant, c'est prendre soin de son couple, évidemment, parce que c'est une période où on s'oublie déjà soi-même, alors encore plus son couple. Et c'est très facile de se laisser aller, d'oublier qui on était et qui on est devenu, et de ne pas prendre le temps de faire les choses et de s'offrir du moment à deux. Et ça, c'est très important. Donc, première des choses, la communication, les gars, il faut communiquer. communiquez entre vous, dites ce que vous ressentez, dites comment vous voulez faire les choses, parlez avant l'accouchement déjà de comment vous voulez que votre postpartum se passe. C'est un postpartum qui se vit à deux aussi, c'est pas juste la maman, c'est le couple, le papa aussi va vivre des choses nouvelles avec son enfant, il va vivre des choses nouvelles avec sa femme, qu'il va voir dans un état qui était différent de la grossesse. Elle a toujours besoin d'attention, a toujours besoin d'être soutenue et prise en charge un petit peu si on veut, et même pas aider, mais il faut qu'il fasse son job, quoi. Communiquer les choses avant accouchement, et n'hésitez pas à communiquer même après, et de dire vos besoins, et de dire ce que vous aimeriez que votre mari fasse de son côté, et lui pareil, de communiquer avec vous ses besoins, ses envies, ses rêves, donc la communication, il faut communiquer tout le long, ne gardez pas les choses en vous, c'est très 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 important. Et communiquer aussi dans la manière avec laquelle vous voulez gérer bébé ensemble, parce que vous avez eu peut-être deux éducations un peu différentes, chacun a des méthodes, chacun a entendu et vécu des choses dans son enfance, qu'il va vouloir peut-être reproduire consciemment ou inconsciemment, et vous avez peut-être... ou pas peut-être, vous avez envie d'en discuter, vous devez en discuter pour que coordonner les choses et dire voilà, moi je vois, voilà c'est comment j'ai envie de gérer, qu'on gère notre enfant de cette manière, pour ce qui est des couches, du biberon, de l'éducation, enfin tout sujet confondu. Et puis il y a des choses qui se font au fur et à mesure et qu'on discute au fur et à mesure. On n'est pas obligé de tout discuter avant, et voilà, mais communiquer, c'est très important. Il y a ça. Pour pas oublier son couple, il faut planifier les choses. Si on se laisse aller, croyez-moi, les mois vont passer et puis un jour vous allez vous réveiller en mode ça fait combien de temps qu'on n'est pas sorti dîner ensemble, ou qu'on n'a pas fait un week-end en tête-à-tête, ou qu'on n'a pas juste pris un déj ou déjeuner, un petit déjeuner ensemble, ou juste sorti faire une balade ensemble. Donc ne vous laissez pas aller, il faut planifier les choses. Vous pouvez dire que par exemple, tous les vendredis, vous sortez déjeuner ensemble, vous laissez bébé chez la nounou, chez la crèche, chez les parents, enfin, quelle que soit la manière avec laquelle vous avez choisi, vous, de vous organiser, et faites votre date night, ou lunch date, ou ce que vous voulez, ou balade à deux, ça prend une demi-heure, une heure, prenez-vous une petite heure à deux, mais concentrez-vous sur votre couple, et discutez, partagez, et redevenez ce couple que vous avez toujours été au fond. Donc hyper important. Et puis évidemment au jour le jour, l'affection, n'oubliez pas de donner de l'affection, d'en demander, parce que si l'autre personne oublie ou se laisse aller, c'est peut-être pas de sa faute, et on est submergé par plein d'émotions et plein de nouvelles tâches à accomplir. Donc n'hésitez pas à communiquer que vous avez besoin d'affection, mais donnez-en aussi pour que l'autre personne comprenne et en redonne en retour. Donc l'affection, c'est gratuit, c'est tous les jours, allez-y, un câlin par-ci par-là, ça fait que du bien à tous les deux. Voilà pour le couple care. Dernier point, et on va clôturer, résumer tout ça, c'est le baby sleep, évidemment. Juste deux petits tips, mais pour le reste c'est un autre sujet, ça mériterait carrément notre podcast, c'est le sommeil du bébé, c'est carrément autre chose, mais juste deux petits tips. Vous pouvez, un, traquer son sommeil avec une application. Moi j'utilisais Bébé Plus, j'utilisais Grossesse Plus pendant la grossesse, et puis on passe à Bébé Plus par la suite. Application très simple, vous pouvez traquer tout ce qu'il y a à traquer. C'était limite devenu maladif au début. Je traquais les cacas, les pipis, le dodo, le biberon, les tétés, les machins, la durée de tout. Et puis on se rend compte que ça sert à rien. Donc tombez pas dans ce piège de tout traquer. Ça, c'est juste une perte de temps, et vous devenez trop en mode ah, mais hier il a tété à telle heure, pourquoi aujourd'hui il dort. Enfin, vous rentrez dans un délire qui sert un peu à rien. Donc ne traquez pas tout. Vous pouvez peut-être traquer juste le sommeil. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de petit à petit, doucement, hein, parce qu'au début ça va un peu dans tous les sens, mais par la suite de commencer à réguler et avoir un rythme de sommeil, un rituel de sommeil, et des heures précises à laquelle le bébé s'habitue à dormir. Donc traquer son sommeil, je trouve que par contre ça peut aider, mais sans en faire une maladie, hein, vraiment juste pour avoir un aperçu et se souvenir un peu de comment s'est passé ces derniers jours et comment réguler les choses. Et puis l'autre tip, c'était de, en journée, que bébé dorme donc à la lumière du jour, vous pouvez tamiser, réduire un petit peu la lumière, bien sûr, on va pas l'endormir au soleil, quoi, mais mais qu'il sente la différence entre le moment où il dort en journée, où c'est un peu éclairé quand même, c'est pas, on n'est pas dans le noir, et le moment où le bébé dort le soir, où c'est là complètement dans le noir, avec peut-être une petite veilleuse qu'on allume ou pas de temps en temps, c'est tout. Il faut que le bébé apprenne dès le début et assez rapidement à faire la différence entre c'est le jour, c'est la nuit. La nuit, il fait noir, on dort plus longtemps, on rentre dans une phase de sommeil qui est supposée être plus longue. C'est la nuit, il fait noir. Et le jour, non, c'est des siestes. Donc c'est un peu différent. Et si bébé arrive à faire cette distinction dès les premières semaines, les premiers mois, ça va beaucoup vous aider par la suite dans le fait de réguler son sommeil et peut-être éventuellement, si vous avez la chance, de faire plus rapidement des nuits complètes. Voilà, donc ça c'était mes tout petits tips sur le baby sleep. Peut-être que si ça vous intéresse, je ferai tout un épisode sur le sommeil, parce que c'est quand même un sujet important et c'est ce que tout le monde a envie, c'est de pouvoir enfin dormir la nuit. Si j'ai aussi une petite astuce, quelque chose à recommander, si vous avez envie de le faire, c'est de faire du journaling juste après la naissance. Ça vous prend parfois 20 secondes, 30 secondes, 1 minute. Parce que croyez-moi, vous avez envie et vous aurez envie de vous rappeler de cette période de votre vie. Postpartum, c'est une période qui passe très lentement à petite échelle et très rapidement en grande échelle. Quand les mois passent et qu'on regarde en arrière, on dit waouh, j'ai passé un postpartum quand même. Qui en vrai peut durer très très longtemps. Le postpartum, c'est très relatif. Mais vous avez envie de vous souvenir de cette période, croyez-moi, et des premiers moments, des premiers regards, et des premières sensations, des premières choses que vous ressentez en vous. Vous avez envie de vous en souvenir. Donc prenez un carnet, notez des choses, notez des sentiments, prenez des photos, prenez des vidéos, demandez à votre partenaire de noter aussi des choses ou de prendre des photos, des vidéos de vous, parce qu'on a tendance, nous, mamans, à vouloir immortaliser des moments, et quand on regarde nos photos, on trouve pas même pas de photos de nous dans le feu de l'action. Et c'est dommage. Donc, n'hésitez pas à demander aussi autour de vous à quelqu'un de vous prendre régulièrement en photo ou en vidéo. Et notez ce que vous ressentez. C'est quelque chose de fabuleux parce que quand vous allez y revenir des années plus tard ou pour une seconde grossesse, si vous avez envie de repenser à des choses ou de vous souvenir dans quel état vous étiez à ce moment-là, c'est génial de pouvoir s'y replonger. Ça d'une part, et aussi si jamais ça ne va pas, ou vous déprimez, ou vous êtes dans une situation où ça devient trop difficile pour vous et tout. Même le fait d'évacuer, d'écrire ce qu'on ressent, ça vous aidera à surmonter tout ça un peu mieux et d'évacuer, ne pas retenir les choses en nous, de vraiment coucher des choses sur papier. Et l'idée, c'est pas de faire tout un baratin de 30 pages, hein, c'est vraiment, vous prenez 1 minute, 30 secondes, vous écrivez 2-3 lignes et c'est reparti. Voilà. Donc franchement, ça c'est un truc que je vous conseille de faire, documenter un maximum cette expérience parce que c'est un truc que vous allez vivre une fois, deux fois, trois fois, allez, quatre fois peut-être dans la vie. Mais voilà, c'est fabuleux, c'est très rare et il faut s'en souvenir, c'est magique. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des sujets un peu qui reviennent pendant le postpartum. N'hésitez pas à ressasser tout ça, à filtrer, prendre ce qui vous intéresse et ce qui vous laissez de côté, ce qui vous convient pas, et de faire de votre postpartum ce postpartum presque parfait, et pour être prête à l'entamer, en tout cas du mieux possible, pour que ce soit plus facile que si vous vous jetiez dedans comme ça, à désarmer, sans outils, sans rien du tout. Donc au moins là, vous savez un petit peu ce à quoi vous attendre un petit peu. En ayant quelques outils, en ayant votre chambre préparée, votre table de nuit préparée, votre salle de bain préparée, vous savez, vous avez un peu des astuces concernant tout ce qui est déchirure, épisio et tout. Vous êtes armé concernant votre couple, il y a une communication qui s'installe, vous avez déjà en tête que vous voulez organiser des petits moments à deux, et puis pour le sommeil du bébé et tout ça. Donc, c'est bien d'être armé et de savoir dans quoi on se jette pour au moins que les choses se passent plus en douceur. Et n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas que it's ok, un bébé va pleurer beaucoup et c'est pas grave, c'est normal, ça fait partie du processus, c'est aussi nouveau pour ce petit être qui vient au monde et qui découvre des choses nouvelles, qui tout à coup était dans le noir et maintenant à la lumière du jour, qui va avoir mal au ventre parce que il mange plus que maman mangeait, maintenant ça passe par le lait maternel, maintenant il y a des coliques, maintenant. Enfin, voilà, il y a une multitude de choses qui sont nouvelles, de nouveaux visages. Un bébé va pleurer. C'est pas grave, c'est normal. Détendez-vous, ne stressez pas. C'est tout à fait normal. It's okay aussi d'avoir de l'acidité et des brûlures d'estomac et des remontées d'acide après l'accouchement. C'est très fréquent, ok. Donc, préparez-vous à ça, ça peut arriver et c'est pas grave. C'est possible que vous ayez de la peau qui gratte et des démangeaisons autour du ventre et des cuisses après l'accouchement aussi. Parce que le corps est en train de se désenfler petit à petit, reprendre un état normal, et les organes reprennent leur place, bref. Donc la peau peut démanger un petit peu, c'est normal. It's okay, ça va passer. Et de se souvenir que everything is just a phase. Tout ça va passer, this too shall pass. C'est une période de la vie qui va passer. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez... vous parlez autour de vous, à votre famille, à vos amis. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez une question ou si vous avez juste envie de vous confier à quelqu'un. Donc voilà, donc, vous n'êtes pas tout seul et tout ça va passer, c'est périodique. Et malgré la difficulté, la fatigue et l'angoisse et tout ça, n'oubliez, c'est une période magique au fond. On a un petit bébé et plus jamais ce bébé n'aura cet âge. Plus tard, bébé grandit et les choses passent et puis c'est juste un souvenir qu'on a derrière et autant garder un bon souvenir qu'un mauvais. Voilà. Donc c'est garder le meilleur de cette expérience. Si ça va pas moralement, n'hésitez pas à consulter. C'est aussi très normal et fréquent d'avoir des dépressions postpartum. Donc n'hésitez pas à en parler. Il y a un test qui s'appelle EPDS sur Google. Google it, donc allez-y, EPDS, si vous sentez que ça ne va pas du tout moralement, vous sentez que vous êtes un peu déprimé, faites ce test sur Google, ça vous dira ce qu'il en est, et puis n'hésitez pas à consulter un spécialiste pour en parler, et vider et aller mieux. Et puis, je pense même que, je sais pas, au Maroc, je pense pas vraiment bien, à l'étranger, en France, il y a une hotline qui est gratuite, que vous pouvez appeler, ça s'appelle SOS Parentalité, de Catherine Dumonteil-Crémer, et c'est la maison de l'enfant. Donc, ils offrent 15 minutes au téléphone pour relâcher la pression. Vous pouvez les appeler au téléphone, donc c'est le 0033. Je suis pareil, j'ai tout noté. Plus 33 0900 74 76 39 63. C'est du lundi au samedi de 14h à 17h. Vous pouvez appeler, c'est gratuit et c'est vraiment SOS parentalité. Donc c'est 15 minutes pour relâcher la pression. C'est des personnes qui pourront vous aider. Donc n'hésitez pas à appeler si vous êtes en France et que vraiment ça ne va pas. Ou consulter un spécialiste évidemment. Voilà. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon postpartum. Si c'est quelque chose que vous allez bientôt vivre ou si vous êtes en plein dedans, bon courage. C'est une très belle période. C'est magique, c'est dur, mais c'est splendide. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et puis enjoy. Et episode pour votre grossesse, pour votre petit peut-être, pour votre vie de nouvelle maman. C'est nouveau, c'est un chapitre pour vous et c'est un chamboulement et c'est normal qu'on se sente déboussolé. On est changé pour à jamais. Donc voilà, bon courage. Je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite une très très belle journée. Et puis rendez-vous donc pour l'épisode suivant, Inch'Allah, que je posterai bientôt. Très très belle journée à tous. Merci et à plus. Ciao ciao.